Monsieur le chanoine m'a demandé de vous parler aujourd'hui sur l'importance du détail. En effet, déjà dans la théologie morale, on connaît la maxime « bonum ex integra causa, malum ex quocum defectu ». Le bien vient de la cause intégrale, le mal de chaque défaut de cette cause. Et nous savons qu'un petit détail peut gâcher tout. Vous pouvez avoir une belle table et elle est parfaitement décorée et une tache sur la nappe ruine un peu cette table. Une personne peut être très agréable à voir, mais un petit défaut dans le visage change tout l'aspect. Un vêtement peut être très élégant et très nouveau, mais de nouveau, si quelque chose est déchiré, on ne peut plus voir la beauté de ce vêtement. Donc, le détail est très important en beaucoup de niveaux. Et ça commence déjà dans la création de Dieu. L'importance du détail se révèle sur le plan simplement naturel de la création, et de la vie sociale des hommes. La différenciation hiérarchique de la nature, et notamment des espèces, des plantes et des animaux, se montre dans des détails souvent minuscules. La beauté naturelle se déploie dans des traits souvent apparemment négligeables d'une fleur, d'un papillon, d'un corps ou d'un visage. Le premier à prendre soin du détail est évidemment Dieu lui-même, qui néglige jamais rien et utilise la moindre petite chose pour nous attirer à lui par les reflets de son être dans toute création. Il ne semble pourtant pas étonnant du tout que le prince de ce monde, lui aussi, c'est-à-dire le diable, hélas, connaisse parfaitement la magie du détail quand il utilise le détail pour détruire les âmes par des tentations méticuleusement appropriées à la situation intérieure de chacun de nous. Il nous connaît. Il sait exactement quel détail peut nous détruire. Et quand il se moque de la beauté et de la réalité divine dans ce monde, en la caricaturant par l'omission ou par le ridicule du détail. Quelquefois, c'est vraiment le ridicule qui est dans le détail qui fait méprendre la beauté divine. Si nous, dans notre vie chrétienne, ne divinisons pas le détail par son immersion de la grâce, l'ennemi va avoir le jeu facile de le diaboliser pour son œuvre de destruction. Nous, les chrétiens, nous devons avoir soin du détail, parce que autrement les autres s'approprient de la beauté ou de l'importance du détail pour le pervertir et pour détruire le tout. Des gestes précipités, par exemple, pendant la messe, pour parlant de nos prêtres, peuvent facilement rendre ridicule ou même odieux le rite majestueux de la messe. Une messe mal dite, une messe où le prêtre ne suit pas le détail des rubriques, peut être difficile pour les fidèles et peut détruire la beauté de la majesté de Dieu présent entre nous. Le vice devient toujours visible dans le détail. Et on dit, à juste titre, le diable se cache dans le détail. Donc même sur le plan naturel, le détail de la vie quotidienne, le détail qui fait l'ensemble, est très important pour honorer Dieu et pour échapper aux tentations diaboliques. Cette même loi se réalise avec une évidence indiscutable dans la vie sociale des hommes. Même les sociétés barbares d'autrefois et les sociétés néo-barbares d'aujourd'hui doivent s'occuper de milliers de détails pour organiser et gouverner les peuples. Les lois coutumières des anciens, le code civil, même le juste positivisme cruel des États totalitaires communistes, fascistes ou islamiques, ne font rien d'autre que régler un monde de détails, le monde de l'homme, selon des principes préétablis de la loi naturelle ou de l'idéologie néfaste des dictateurs. Je vous donne un exemple. Évidemment, une croix dans une classe semble un détail. Il y a beaucoup d'autres choses qui, dans une classe d'enseignement, semblent plus évidentes. Mais évidemment, le totalitaire, la dictature, soit-elle fasciste ou communiste, va s'acharner contre le détail de la croix. Et c'est pourquoi il ne supporte pas qu'elle soit présente. C'est pars pro toto, un exemple, comme aussi les législations antichrétiennes doivent se attaquer aux détails, positifs ou négatifs, pour influencer les hommes, pour dominer les hommes et pour détruire finalement les hommes. Sur un niveau bien plus supérieur quant à l'importance pour l'éternité, par exemple, la vénérable règle de Saint Benoît s'occupe admirablement de chaque détail de la vie religieuse dans une harmonie parfaite entre la loi divine naturelle, la loi divine positive et le bon sens humain surnaturalisé de notre grand patron, parce que Saint Benoît est un des patrons de l'Institut. Dans sa somme théologique, Saint Thomas d'Aquin, le docteur commun, réussit à créer une synthèse divine de tous les détails théandriques de l'œuvre de la rédemption, pour ne pas parler de Saint François de Sales, dont nous pourrons jamais assez apprécier la sagesse du détail en tout ce qu'il nous enseigne. Si vous lisez l'introduction à la vie dévote, Saint Thomas d'Aquin est un grand, Saint François de Sales est un grand connaisseur du détail de la vie quotidienne, du détail de la vie des laïcs. Et il nous dit comment sanctifier ces détails, même par exemple la danse, les réceptions, les dîners et tout ce que est peut-être secondaire dans notre vie, mais quand même a une grande importance dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de succès humain, pas de génie, pas de monument d'art et aucun personnage vraiment grand qui ne se base sur la connaissance et sur le soin pour les traits les plus minuscules de la réalité. Un César, un Charlemagne, un Louis XIV, une Marie-Thérèse et encore moins un Saint-Léon le Grand, un bienheureux Pie IX, un Saint-Pie X, ne seraient pensables sans leurs soins incessants pour chaque détail du gouvernement. Les grands saints, les grands rois, les grands supérieurs se sont toujours aussi occupés des détails. Si vous voulez éduquer un enfant, vous ne pouvez pas seulement donner des grandes lignes. Il faut répéter toujours les mêmes choses qui appartiennent à des détails de la vie. Si on veut vraiment avoir un succès dans la vie, on ne peut pas se reposer sur une conviction générale chrétienne. On doit vraiment suivre le détail de la vie professionnelle. Et en tout aussi, le prêtre, s'il veut être un bon pasteur, il doit pas seulement donner des grands serments, il doit suivre ses fidèles comme un père ou une mère dans tous les détails de la vie quotidienne. Parce que beaucoup de questions qui sont demandées aux prêtres ne se réfèrent pas aux grandes questions principales de notre vie chrétienne, mais aux détails de la vie morale, de la vie de famille et de la vie personnelle. Le Tout-Puissant même a daigné s'occuper du détail humain, non seulement de la création, mais encore plus dans la révélation des commandements qui gouvernent toute vraie moralité. Et finalement, dans le mystère suprême de l'incarnation, où il s'approprie de la nature humaine totale jusqu'au moindre détail. Ce n'est pas un détail que notre Seigneur est devenu homme. Ce n'est pas un détail qu'il a vraiment agi comme rédempteur en tant que masculin. Et ce n'est pas un détail que Notre-Dame soit en tout mère et femme. Tout ça, ce sont des réalités où on voit que la divinité s'occupe du détail de la vie humaine. C'est rien pour le bon Dieu et secondaire. Depuis le moment de l'Annonciation, le soin pour le détail humain est devenu une liturgie qui rend une gloire particulière à la deuxième personne de la très sainte Trinité. Parce que Dieu est devenu homme, Dieu a montré dans une manière touchante et directe qu'il s'occupe du détail de la vie humaine. Permettez-moi de vous donner un autre exemple de cette vérité, peut-être encore plus clair, en attirant votre attention sur les relations amicales des hommes entre eux. L'amitié, comme vous le savez bien, vit du détail. Combien d'amitiés ne se sont déjà détruites parce que quelqu'un a négligé une carte de vœux, a négligé un sourire, a négligé une bonne parole, ou au contraire, au mauvais moment, a donné une réponse trop vite. Nous sommes humains. Le détail compte pour nous. C'est pourquoi l'amour naît et se nourrit également de chaque particularité de la relation mutuelle. Hélas, les mariages se déchirent souvent à cause du mépris égoïste pour le détail amoureux. On ne pense qu'à soi-même. On néglige le détail, les fleurs pour l'anniversaire du mariage, le cadeau qui pourrait faire plaisir, le soir où on veut être seul avec l'époux ou l'épouse. On néglige les détails et on détruit, sans le vouloir, l'amour. La vie de famille aussi est basée sur le détail. Analogiquement, mais pour cette même raison, nous ne devons jamais permettre que des traits peu appropriés détruisent l'atmosphère de vraie et pure amitié spirituelle qui devrait régner dans nos amitiés qui ne sont pas maritales, dans les amitiés sacerdotales, dans les amitiés entre hommes et femmes qui ne sont pas mariés. Nous devons éviter le détail qui pourrait devenir sentimental. Nous devons éviter aussi les froideurs qui peuvent tuer l'amitié. Pour le prêtre, par exemple, ni des préférences personnelles, ni des sentimentalismes malsains, ni un ton irrité, ironique ou sarcastique, ni le mépris, ni la négligence personnelle ou les petits égoïsmes paresseux doivent tuer le soin pour la charité envers les fidèles. Et dans la famille, c'est tout de même. Ce qui pense trop à lui-même va négliger les détails qui fait plaisir. Qui est trop concentré sur le propre bonheur ne va pas pouvoir soigner les détails qui constituent le bonheur des autres. Certainement, on peut dire du mariage, comme on peut dire de la famille et de la communauté sacerdotale, « Vita communis maxima penitentia est ». La vie commune est souvent la plus haute forme de la pénitence. Parce qu'on n'a jamais le droit de seulement penser à soi-même. Il y a beaucoup de joie dans la vie commune, du mariage, de la famille, de la vie commune sacerdotale. Mais il y a aussi la nécessité de se sacrifier pour faire plaisir à l'autre. Parce que cette vie commune ne peut être florissante en tant que signe visible de notre charité mutuelle. Seulement si chacun a cure du détail dans ses relations, dans ses moindres paroles, ses gestes et sa promptitude à servir les autres. C'est pourquoi cette vie commune dans la famille, dans le mariage, dans la communauté religieuse, ne va jamais fonctionner sans le sacrifice, c'est-à-dire sans le soin pour le détail qui fait plaisir aux autres. Sur un niveau encore plus élevé, ça c'est vrai aussi pour la tradition de notre foi catholique. La tradition s'incarne dans le détail. Notre fondateur, Monsieur Gilles Vac, nous redit souvent, par exemple, « La messe est un diamant qui a besoin d'un écrin précieux pour pouvoir développer toute sa brillance. » On a bien prêché sur la majesté du rite, sur la présence divine, sur le fait que Dieu devient homme et se daigne d'être entre nous dans l'hostie, si on néglige l'autel, si tout est sale, si tout est pas soigné. Nos paroles, aussi élevées qu'elles puissent être, sont niées par les faits, constatés par les fidèles et même par les petits enfants à l'école. Il ne suffit pas de parler de la majesté de la messe. Encore faut-il la mettre dans le cadre de la grande tradition catholique afin que nous puissions vivre tous les faits de ce mystère céleste et afin que le monde s'aperçoive de sa valeur infinie et de la présence du divin dans le quotidien. Dans la tradition créée par l'Esprit de Dieu, pendant les 2 millénaires de l'existence de l'Église, il n'y a pas de quantité négligeable. Parce que ce n'est pas une création humaine. Les détails de la tradition, les manières d'expression choisies par le magistère pour expliquer les vérités de foi, même les paroles de la Sainte Écriture, qui sont tous inspirées par l'Esprit Saint, les gestes de la liturgie, les gestes de la dévotion populaire qui s'est développée dans des siècles, ne sont pas des pures inventions humaines. Ce sont des créations de l'Esprit de Dieu. Et si on les touche, si on les change, si on les néglige, on néglige, change et touche la force divine qui est en eux. Si on néglige volontairement le moindre trait de l'admirable édifice de la tradition ecclésiastique, toute sa construction en souffre et à la longue commence à vaciller dans ses fondements pour finalement s'écrouler dans les âmes. Déjà, les traditions simplement humaines vivent d'un ensemble de détails symboliques dont la destruction ne va pas sans détriment pour la vie de la société. Une société sans tradition familiale, une société sans cérémonie extérieure, une société sans tous les détails de la courtoisie dont je vais encore parler, s'écroule lentement et se rébarbarise. Les révolutions et les révolutionnaires de tous les temps et de tous les pays en étaient bien conscients et ont toujours pris soin d'éliminer non seulement les symboles de la tradition, mais de tuer les principaux représentants de ces traditions, souvent, hélas, eux aussi déjà bien affaiblis par leur propre mépris de la tradition. Donc, le fait que la grande révolution en Europe a tué les élites, a tué les prêtres, était certainement dirigé contre les représentants de la grande tradition qui aussi consiste et survit dans le détail de la société. La corruption de la tradition catholique, dont nous vivons le néfaste apogée, a été un procès long et laborieux de destruction des symboles par le rationalisme et par la pénétration de l'esprit mondain. Cela a été rendu possible à cause de la croissante incompréhension et par conséquent négligence du détail traditionnel dans la vie quotidienne et dans la célébration des saints mystères. Quelquefois, on se dit peut-être, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Qu'est-ce que je peux faire contre cet appauvrissement de la vie catholique? On peut faire ce que, dans notre petit et pauvre, nous cherchons de faire dans l'Institut, c'est-à-dire de soigner les symboles de la tradition catholique, de la foi. D'avoir des croix dans toutes les chambres, d'avoir un bénitier à la porte, et peut-être dans toutes les chambres, et possiblement avec de l'eau bénite dedans, d'avoir des images des saints, de soigner la bonne et table agréable pour nous-mêmes, pour notre famille, de ne pas manger du réfrigérateur, de ne pas faire comme tous les autres, de ne pas nous comporter à la manière, excusez-moi, j'ai vécu 15 ans en Amérique, j'aime beaucoup les Américains, mais je dis quand même de ne pas vivre à la manière américaine moderne, mais de soigner tous les détails de la vie familiale, de la vie de la foi, les symboles dans notre maison, dans notre appartement, dans notre vie. Et ça va rayonner. Ça va rayonner. Vous voyez, je vous donne un seul exemple, toujours pris de mon expérience américaine. Nous avons restauré une église dans une ville un peu perdue dans le Midwest américain, où la vie était devenue très informelle. Et les familles étaient en grand danger de se défaire, parce qu'il n'y avait plus aucun moment de rassemblement familial. Pas à table, tout le monde était devant la télévision, on ne communiquait plus, on ne mangeait plus ensemble. Toute la culture chrétienne se réduisait à la messe. Et nous avons cherché d'introduire 4 fois par an un repas paroissial, avec des nappes, avec des bougies, avec un verre de vin, avec un thème, avec des chansons, avec la conversation. Dorénavant, nos fidèles ont compris, pas tout de suite tous, mais de plus en plus, qu'on devrait au moins, même si la vie est dure et on doit travailler beaucoup aux États-Unis pour survivre, surtout au Midwest, d'avoir une fois au moins par semaine, sinon par jour, un rassemblement familial à la bonne table. Et peu à peu, on a pu introduire toute une tradition, réintroduire, qui s'était perdue depuis les années 50. Ça, c'est seulement un exemple de l'importance du coutumier pour la tradition. Mais sous l'influence de la législation moderne positive, aussi dans l'Église, on a plus su respecter la loi de la croissance organique, selon laquelle tous les changements dans la vie de la Sainte Église se développent normalement lentement, par voie de la coutume juste et approuvée, dirigée invisiblement par le souffle de la sagesse divine. On n'abolit pas facilement les détails traditionnels pluriséculaires sans créer des précédents qui engendrent des principes antitraditionnels et anticatholiques. Notre cher institut, si petit et fragile qu'il soit, semble pourtant une des forces plus intégralement traditionnelles dans le monde ecclésiastique actuel parce que, dès le commencement, sous la direction de notre fondateur, nous avons soigné tous les détails qui appartiennent au monde impressionnant de la grande tradition catholique. Pas seulement la messe et les rubriques, mais aussi les dévotions, aussi la manière d'être charitable les uns avec les autres, commençant dans nos communautés de prêtres. Aussi la culture catholique, l'art, la beauté. Notre monde est devenu laid. Mais en effet, comme dit Monsieur Bach souvent, la beauté est l'éclat de la vérité. Donc si on soigne la beauté dans nos églises, dans nos chapelles, mais aussi dans nos maisons, et ça vaut aussi pour vos familles, on aide les enfants de comprendre pas seulement la beauté, mais avec la beauté des choses, aussi la vérité. Ça, évidemment, pour nous et pour vous qui assistez à nos fonctions liturgiques, se reflète dans la fidélité aux rubriques de la liturgie. Il est bien évident que la liturgie, dans sa visibilité symbolique, consiste en un ensemble de détails dont chacun porte une signification sacramentelle de premier rang, négligée seulement par ceux qui ont laissé s'affaiblir leur sens du réalisme théologique de l'incarnation par un nominalisme de gestes et de paroles. Vous pouvez voir, malheureusement aussi, entre les prêtres aujourd'hui, qu'ils ne comprennent plus que les gestes de la messe, les gestes de la célébration des sacrements, les gestes des dévotions catholiques ne sont pas purement symboliques dans un sens extérieur. Chaque geste est porteur de la force divine. Certainement, dans une manière graduelle, le plus fort, évidemment, dans les sept sacrements, où les gestes extérieurs ont été liés à la grâce par la volonté divine, en telle manière qu'à chaque fois que le prêtre fait ce que Dieu lui ordonne par l'Église, Dieu agit. Mais aussi dans les autres gestes qui sont autour du centre sacramentel. Tout ça, ce sont des actions graduelles de l'Esprit-Saint, de la divinité, qu'on ne change pas sans affaiblir la compréhension et la réalité de la présence divine. C'est pourquoi, pour vous donner un exemple, certes, la messe est toujours valide si le prêtre veut faire ce que l'Église lui ordonne de faire, et surtout s'il prononce les mots de la consacration. Mais déjà, saint Thomas d'Aquin a enseigné que le prêtre peut approfondir la participation des fidèles à la grâce par suivre exactement le rite avec dévotion intérieure. Un prêtre qui célèbre en manière négligée, qui célèbre trop vite, ou qui célèbre trop lent et trop en manière trop théâtrale, peut devenir comme un mur entre la grâce qui objectivement est donnée dans le sacrifice et la participation de la grâce. C'est pourquoi un prêtre doit faire tout pour célébrer dignement afin qu'il n'ait pas un mur, mais un médiateur qui donne toute la lumière surnaturelle aux fidèles par la digne célébration des rubriques. Et nous vivons souvent les tristes conséquences de ce nominalisme liturgique qui ne voit plus l'importance des symboles et qui a appauvri notre sainte liturgie au point de ne laisser que ruine de sa grandeur ancienne. Certes, la grâce peut encore se servir d'un signe partiellement en ruine pour arriver aux hommes grâce à la force de la divinité. Mais les hommes qui ont besoin de signes bien visibles et clairs auront de grandes difficultés à s'ouvrir à la grâce si celle-ci porte des ornements déchirés et utilise des gestes mutilés. Vous avez certainement observé que le prêtre, dans la liturgie traditionnelle, après avoir touché dans la consécration la première fois l'hostie, ne ouvre plus ses doigts et continue à célébrer jusqu'à l'ablution avec les doigts fermés. Ce geste est un petit détail, évidemment. Et très souvent, si les hosties sont bien solides, on ne trouve même pas une visible particule entre les mains du prêtre. Souvent, on y trouve un particule. Mais le geste est toujours très clairement une expression du respect profond du prêtre pour ce qu'il a touché. Le prêtre évite même le lointain danger de perdre une des particules sous laquelle le Christ est totalement présent. Et c'est visible à tout le monde. Et c'est compréhensible aussi aux tout petits qui font avec grand soin l'ablution après la distribution de la communion. Tout le monde comprend que le prêtre fait ça parce qu'il croit que notre Seigneur est présent dans la Sainte Hostie et il néglige pas ce geste parce qu'il veut montrer ça à tout le monde qui est présent. Un autre détail de la liturgie, aussi négligeable selon l'esprit moderne, mais aussi important pour une expression théologique de la foi de l'Église, est la génuflexion tout de suite après la consécration. Vous savez que le prêtre, après avoir dit les mots de la consécration sur le pain et aussi encore une fois sur le calice, avant de vous montrer les saintes espèces, se met à genoux. Et la rubrique du missel dit « Genuflexus adorat ». Il se met à genoux et adore la présence du Seigneur. Ce geste est évidemment beau parce qu'il le fait avec vous. Premièrement, ça signifie que le prêtre est aussi représentant de l'Église. Il adore avec vous ce qu'il a pu faire en tant qu'alter Christus, en tant qu'agissant dans la personne du Christ. Mais après avoir agi dans la personne du Christ, il devient avec vous fidèle et il adore. Puis, il montre l'hostie, il montre le précieux saint. Ça veut dire aussi que la présence de notre Seigneur, la présence réelle, ne dépend pas de la foi de ceux qui sont présents. On ne le montre pas avant. Et par la foi de la foule, la présence devient réelle. Non, la présence devient réelle et est réelle parce que Dieu a agi. Et c'est pourquoi aussi le prêtre, avec nous tous, doit s'agenouiller et adorer parce que Dieu a agi et lui est l'auteur de la présence, pas notre foi. Même si personne dans l'assemblée croyait à la présence réelle, malheureusement, on craint que quelquefois aujourd'hui ça pourrait être le cas, Dieu est quand même présent parce que c'est lui qui a garanti cette présence, c'est son pouvoir qui rend possible les miracles même sans notre foi. Ce sont deux détails qui sont quelquefois peut-être négligés, mais qui sont de grande importance pour notre foi à la présence réelle. De là, dans l'esprit de notre institut, notre obligation d'avoir le souci profondément sacerdotal du détail liturgique comme expression du génie créatif de l'Esprit-Saint, qui a formé chaque geste, chaque expression et chaque tradition autour des sacrements avec la sagesse amoureuse de la divinité, avide de s'unir à toutes les âmes humaines. Hélas, bien avant la prétendue réforme liturgique, même prêtre en cru pouvoir négliger les détails fragiles qui protègent la relation des pécheurs avec Dieu, qui prépare la descente miséricordieuse du Fils de Dieu sur nos autels pour la conserver et la rendre visible aux yeux de la foi. Il est vain de se lamenter sur le pastoralisme aveugle des années 40 et 50 jusqu'à nos jours, si nous-mêmes ne nous gardons pas de tomber dans ce piège à la fois simpliste et hautain. Simpliste, parce qu'il semble bien naïf de vouloir croire que nous pouvons rendre la messe plus attractive en cassant son admirable équilibre intérieur, dirigé par des principes liturgico-théologiques que la plupart des prêtres et des évêques sont certainement incapables de comprendre dans leur totalité. Vous voyez, la liturgie est premièrement un mystère créé par Dieu. Certes, il y a des phases historiques d'une énorme longueur où des détails ont été ajoutés pour toujours mieux exprimer le mystère. Mais qui sommes-nous à une table, comme le disait très bien Benoît XVI, avec un esprit totalement théorique de détruire ce que a été développé par l'Esprit Saint dans les siècles. C'est pourquoi cet esprit est aussi hautain, parce qu'on tombe dans le mépris d'une tradition profondément pastorale au plein sens du terme, c'est-à-dire dérivée du bon pasteur qui a toujours su que les âmes sont plus facilement élevées à lui par le mystère de l'incompréhensible que par les banalités faciles de son clergé. En effet, très souvent, des âmes se convertissent à cause de la célébration traditionnelle des saints mystères et très rarement à cause de nos seuls efforts catéchétiques. Dieu ne cesse pas d'opérer des miracles si nous ne interférons pas trop dans son domaine. En effet, je peux vous illustrer ça avec une anecdote vraie. Ça date de quelques années, et un jour, dans une de nos maisons en Allemagne, nous recevons le coup de téléphone d'amis qui disent « Nous voulons bien porter à la messe basse de semaine un de nos amis protestants qui est un membre d'une des familles les plus vieilles protestantes en Allemagne, qui avait régné dans un de nos maintes petites principautés. Et je disais, mais c'est la messe basse de semaine, ça peut-être un peu sec pour lui, qui ne connaît pas le latin, qui n'a jamais vu une messe catholique, qui ne sait pas beaucoup de notre foi. Mais eux, heureusement, ont insisté contre ma petite foi. Et donc, finalement, j'ai cédé et j'ai dit, oui, portez-le. Et donc, son Altesse est venue et son orgue, dans notre petite chapelle sous le toit, nous en va, comme chaque jour, célébrer la messe basse de la semaine. Et lui a assisté. Et après la messe basse, je me suis rendu dans la sacristie, et après avoir déposé les ornements, je me suis quand même approché de lui pour demander « Votre Altesse, ça vous a dit quelque chose ?» Et la réponse était « Maintenant je sais que je dois devenir catholique. » Et il est devenu catholique, et comme tout le conte de fées finisse bien, il a trouvé une princesse catholique, et maintenant cette famille a une branche catholique. Son père a voulu le déshériter après ça, mais la venue des petits-enfants a tout changé. Mais vous voyez, c'était ma petite foi. Évidemment, le rite en lui-même, le mystère a dans le soin pour le détail et la présence divine fait possible cette conversion. Donc, Dieu ne cesse pas d'opérer des miracles si nous ne l'interférons pas trop dans son domaine. Pour nous, prêtres de l'Institut du Christ-Roi, ça veut dire de bien connaître, d'aimer et de respecter toutes les rubriques traditionnelles et de ne jamais permettre leur changement ou leur adaptation, sauf sur des points mineurs et si les lieux ou les situations l'exigent impérativement. Là où l'autel n'a pas 3 marches, on ne peut pas faire 3 pas pour arriver à l'autel, ça c'est sûr. Notre premier souci dans la célébration des saints rites doit et est de se concentrer sur Dieu et sa gloire, et non pas sur le soi-disant homme moderne avec ses limites ou demandes. Parce que la gloire de Dieu est le salut des hommes. L'homme moderne de tous les temps est toujours le même. Il a toujours été converti par le mystère et pas par les machinations des hommes. Il serait vraiment ridicule de penser que Dieu ait pu faire croître un rite aussi vénérable par son âge et son harmonieuse beauté dans le sein de son Église si ce rite n'était pas le plus approprié pour sauver les âmes. Dieu n'a pas besoin de notre créativité, souvent bien limitée, pour accomplir l'œuvre de la rédemption, mais il a plutôt besoin de notre fidélité précise et humble aux dispositions des gestes sacramentels de son épouse, car le serviteur ne doit pas prétendre devoir inventer du nouveau quand le maître ne lui demande rien que de répéter les rites de toujours. Nous n'avons pas à inventer l'Église. L'Église existe déjà. En conséquence, non seulement chacun de nous doit bien se garder de réinventer le pôle nord liturgique ou de se croire le plus grand liturgiste de plus, le saint cardinal de Lampedusa, un des grands liturgistes baroques, mais il doit aussi se garder de personnaliser la messe qu'il célèbre à son goût ou selon ses préférences personnelles. C'est pourquoi, à chaque chapitre général, nous tous, aussi notre prieur général, une fois, a un de nos maîtres de cérémonie à son côté pour la messe basse. Et après, on nous montre toute une liste de petites fautes que nous avons faites. Et souvent, dans ses discours, Mgr Vach nous montre la liste qu'il a reçue, lui. Parce que c'est comme dans toutes les choses, aussi dans vos professions, dans votre vie familiale, si on s'accoutume trop au beau, si on prend trop pour garantie l'amour, on néglige. Donc on doit toujours pas réinventer la messe, mais réfortifier notre amour et, c'est-à-dire, le soin pour le détail. Je ne veux pas être trop long, mais je veux vous donner 2 autres petits exemples pour l'importance du détail hors de la liturgie. Parce qu'après, ce détail liturgique, cette créativité divine qui nous a donné le plus beau des beaux, c'est-à-dire la messe, doit se traduire dans notre vie quotidienne. Doit se traduire dans la vie quotidienne des prêtres qui ne doivent pas vivre une vie en contraste avec le mystère qu'il célèbre, mais doit se traduire aussi dans la vie des laïcs qui ne doivent pas vivre une vie en contraste avec les mystères auxquels ils participent. Trop de générations se sont peut-être éloignées de l'Église parce que entre la charité que Dieu nous montre dans la Sainte Messe et la charité ne pas vécue à la maison parce que trop dure, il y avait une telle différence qu'ils se sont éloignés aussi de la charité visible de Dieu dans la messe. Donc notre vie doit être harmonieuse. Tout le détail, pas seulement le détail liturgique, mais le détail de la vie quotidienne, doit montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Vivre de manière vraiment salésienne, selon les enseignements de saint François de Sales, est de grande importance aussi dans la vie familiale, dans notre vie de tous les jours. Or, la vie familiale, c'est-à-dire la vie dans les familles, dans vos maisons et dans notre famille de l'Institut, se compose évidemment d'innombrables détails, comme dans toutes les relations humaines et particulièrement dans cette vie. Quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum. Il est beau et joyeux de vivre en commun, mais il est beau et joyeux seulement si chacun contribue dans la vie familiale de rendre tous les aspects de cette vie paisible et attractive. L'unité de cette joyeuse famille spirituelle, soit-elle religieuse, soit-elle naturelle, ne doit pas être prise pour une uniformité simpliste, ni pour une camaraderie facile, mais forme une composition surnaturelle basée sur l'harmonie de multiples éléments humains et divins dont l'âme consiste en la charité vécue. Avec une analogie pas trop forcée, on pourrait comparer la vie de famille à l'Église, dont le Seigneur est la tête, l'âme et l'esprit divin, les membres des hommes surnaturalisés et les moyens des détails naturels visibles plus ou moins instrumentalisés par la grâce. En conséquence, notre institut va aussi être un exemple de vie familiale, une préfiguration de la famille céleste immergée avec tous ces éléments humains dans la gloire de Dieu. Pour cette raison, nous allons facilement comprendre que nous devons voir dans tous les détails humains de la vie familiale des moyens de grâce à traiter avec le plus grand soin amoureux, avec une cure quasi-liturgique en l'honneur de Dieu. Les goûts sont différents, évidemment, et on ne veut pas imposer une uniformité de goût. Dans sa longue histoire, l'Église a connu beaucoup de styles qui étaient toujours en différentes manières une expression de la vie divine, de la beauté divine. Mais dans notre demeure familiale, soit-elle humble, soit-elle grande, on peut toujours prendre soin de la beauté. On peut toujours prendre soin qu'il règne un beau goût. On peut toujours éviter le laid. On peut toujours trouver que tout ce que nous avons dans notre maison est en harmonie avec notre foi et exprime aussi notre conviction de foi. Je dis souvent à nos prêtres qui vivent aussi une vie familiale et commune qu'il y a plusieurs petits détails qui contribuent en manière très facile à cette beauté de la vie familiale et de la demeure familiale. Par exemple, comme les mères le savent et le prêchent toujours, la propreté. Si même nos maisons sont humbles, on dit à nos chanoines, on ne doit pas imiter le triste mariage de la misère ou de la pauvreté et de la saleté. Si on éduque les enfants à la propreté, si on cherche que la maison soit à la mesure du possible, si on a plusieurs enfants, ordonnées, si les choses sont à leur place et tout le monde contribue de les remettre à leur place, la maison se transforme et devient, sans être précieuse, plus belle et plus commode pour vivre. Ça déjà est une expression de la harmonie de Dieu. On ne peut pas s'imaginer que la maison de Nazareth était désordonnée, sale ou laide. Elle était certainement très simple, mais d'un goût de simplicité, d'un goût aussi de fête, qui exprimait l'amour divin entre les membres de la Sainte Famille. Je ne veux pas vous ennuyer avec beaucoup d'autres détails, mais par exemple, aussi dans la famille et dans la communauté, la ponctualité est un détail apprécié. Si on est ensemble plus ou moins ponctuel à la table familiale, si on se rencontre, si on veut faire quelque chose en commun sans trop de délai, si on arrive à l'église ponctuellement pour honorer le fait que le temps est un cadeau de Dieu, si on ne perd pas le temps par des choses inutiles et la télévision ou d'autres passe-temps qui ne sont pas dignes souvent de notre intelligence et de notre vie chrétienne, toute notre vie change. Toute notre vie devient beaucoup plus un reflet de la divinité, de l'ordre, de la beauté, de ce que Dieu veut que nous serions un jour dans sa gloire. Une chose, je crois, est tellement importante pour nous tous dans la vie quotidienne que, pour finir, je veux me fermer un peu plus longtemps sur ça. C'est la politesse et le tact. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, notre société se barbarise parce que cet élément est négligé. Et vous savez bien que la politesse et le tact se rétrécissent souvent à des très petits gestes, aussi entre l'époux et l'épouse, certainement entre les enfants et les parents, et encore plus visiblement si on veut être un bon hôte ou une bonne hôtesse. Il y a tout un domaine relationnel entre les hommes où le détail possède un poids décisif et où un geste, un sourire, un mot bien placé et une petite attention respectueuse peut tout changer et tout colorer définitivement. Le domaine de la courtoisie et du tact, dont je vais parler brièvement pour finir cette conférence, possède une portée particulièrement grave dans la vie du prêtre, mais aussi dans la vie des laïcs, et a été traité avec grande sagesse dans les œuvres de saint François de Sales, qui pourrait être appelé le docteur de la civilité, doctor civilitatis. Bien entendu, notre saint patron n'encourage pas la fausse politesse du monde décrit par le vieux Goethe, par le mot terrible en allemand en « man », si on est poli. Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist. La courtoisie ne se veut pas une politesse brillante et hypocrite de l'extérieur qui cache un intérieur laid et nauséabond comme des meubles d'imitation de troisième époque, mais doit être l'expression d'un profond respect pour la dignité de chaque personne créée et aimée par Dieu. On peut être poli avec un mendiant. On peut être poli avec une personne handicapée qui même ne raisonne pas beaucoup. La courtoisie ne veut pas dire, par exemple, utiliser une onction exagérée et feinte au téléphone pour raccrocher ensuite avec une grimace de mépris. Tout au contraire, rien ne pourrait être plus éloigné de la courtoisie authentique que le mensonge et la fausseté. Parce que la courtoisie est une vertu qui vient de la reconnaissance intérieure de la valeur incontournable de chaque être raisonnable aux yeux du Dieu, de la foi profonde, dans le fait mystérieux de la miséricorde divine. Parce que Dieu est courtois avec nous, Il nous traite chacun comme nous le méritons et il nous traite même mieux que nous ne le méritons. Donc, en limitant, on est même encore courtois avec ceux qui ne sont pas courtois avec nous. Quelle délicatesse de Dieu de nous demander notre libre décision pour le suivre. Il pourrait nous écraser avec son amour, son pouvoir, mais par son amour, il respecte notre faible liberté et nous demande de assentir librement à son amour. Une plus grande courtoisie que ça n'est pas possible. Il a même demandé le oui d'une faible vierge pour devenir homme. Il aurait pu devenir homme tout de suite sans demander personne. Mais il demande courtoisement et avec grande politesse amoureuse sa créature, si il peut la sauver. Et donc, si lui traite nous, qui nous sommes des abominables pécheurs, avec cette courtoisie, pourquoi ne nous efforçons pas avec amour de traiter notre voisin avec un peu plus de courtoisie et de politesse chaque jour? Tout change avec un sourire, tout change avec une bonne parole, un changement même du ton de voix. Et la parole merci a souvent même changé des relations entre des supérieurs, des inférieurs, des parents et des enfants profondément. Nous savons avec le Seigneur, dont le Sacré-Cœur est le sommet du tact, plein de compassion et de compréhension intime des besoins des pécheurs, qu'il n'y a pas une méthode uniforme de toucher les autres, mais nous savons que avec la courtoisie, la politesse et le tact, nous avons jamais tort et nous allons jamais heurter personne. Combien de fois notre Seigneur lui-même nous a montré que sa courtoisie envers les pécheurs a ouvert leurs âmes à la rédemption. Mais bien, cher ami, ce que je viens de dire sur l'importance du détail en soi et dans la vie quotidienne à propos de la liturgie, de la vie familiale et de la courtoisie ne doit pas être relativisé avec légèreté. Il serait trop simple et guère conforme à notre esprit salésien de rejeter le monde de l'ordre classique qui forme le fond de l'enseignement de Saint François de Sales. Car ce fond est le fond de la réalité de Dieu, le fond de l'être, du vrai, du bien et du beau, si bellement expliqué souvent par le Saint Docteur. L'être de Dieu est simple, uni, indivisé, parfait. Force à la différence ontologique, l'être de ce monde consiste de billions de détails qui, chacun à sa place, est un reflet et une participation à la perfection divine. Hélas, créé en harmonie parfaite, le monde des hommes est entré en désordre parce que les hommes ont suivi les insinuations de celui qui haït l'ordre. Car cet ordre est l'ordre de Dieu. Satan cherche éternellement de faire ce que a formé son nom, Diabolein, le diable qui déchire l'ordre. Le déchirer dans le désordre du néant où les détails, hors de leur place prévue, retombent dans la laideur du chaos et se perdent avec les âmes. C'est l'œuvre du diable. Or, la Sainte Église romaine est l'ordre de Dieu recréé par le sang précieux du cœur de Jésus. Non seulement donc un ordre d'être naturel, mais un ordre d'amour surnaturel. L'ordre de l'Église découle de sa constitution hiérarchique dont le Dieu-homme est la tête théandrique et qui, en conséquence, a le but de pénétrer tout l'ordre humain, naturel et surnaturel. La liturgie sacramentelle de l'épouse est le premier instrument de la porte glorieuse de la divinisation du monde par l'amour du Sauveur, appelé justement la christification de la liturgie. Vraiment, la liturgie nous donne un reflet du ciel. La liturgie que nous avons recréée par la force divine qui est profondément surnaturelle, nous donne déjà une première vue de l'ordre éternel de la divinité glorifiée. Tous les champs de l'activité humaine, entièrement dirigés vers le dernier but de la contemplation de l'ordre céleste, doivent participer à cette œuvre de christification entreprise par l'Église, cette grande civilisatrice des peuples dans l'ordre nouveau de l'incarnation, afin que la civilisation de l'amour puisse finalement et définitivement vaincre la décivilisation de la haine dont Satan est le prince chaotique. C'est pourquoi la liturgie doit se traduire dans la vie quotidienne. Les détails de la célébration digne de la Sainte Liturgie sont seulement une aide pour nous de faire, comme disait Saint Benoît, de toute notre vie une liturgie digne de Dieu. Donc tout ce que nous devons faire et tout ce que nous faisons pour soigner les détails dans l'ordre de Dieu, dans la vie morale, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans le pratico-pratique de chaque jour, continue la liturgie de l'autel et fait découler les grâces de l'autel, les grâces de la croix dans la vie quotidienne. Ça, chacun de nous peut faire dans son petit. Une institutrice qui répète pour la 100e fois « Tenez-vous droit, soyez gentil » ne fait rien d'autre que d'enseigner une partie de la liturgie divine qui conduit à l'ordre éternel. C'est pourquoi on doit voir ça à la lumière de vraiment cette grande expression de saint Augustin qui était la maxime de Pie XII, Pax Tranquillitas Ordinis, la paix et la tranquillité de l'ordre, pas de l'ordre humain mais de l'ordre divin. Mais là où notre ordre humain est pénétré liturgiquement et naturellement par l'ordre divin, aussi dans nos familles, dans notre société, va suivre Pax Tranquillitatis, c'est-à-dire la tranquillité de la paix de Dieu. Merci.